Les Voix de service magazine, mercredi 22 novembre. Bonjour!
Bonjour, Isabelle.
Bonjour, bonjour.
Est-ce que je vous ai manqué la semaine passée?
Ben oui.
Ben moi, vous m'avez pas manqué. Non, c'est pas vrai. Moi, j'étais très malade, alors je vous remercie d'avoir tenu le... Je m'appelle donc Isabelle Falardeau et j'ai à ma gauche Daniel Lachance.
Bonjour.
À ma droite, Serge Bradet.
Bonjour, bonjour.
Derrière la vitre à la mise en onde, Jean-Sébastien Laliberté.
Mm-hmm. Salut.
Bonjour, Jean-Sébastien. Et puis aujourd'hui, ben moi, je vais vous parler de 5 choses à savoir sur les droits de chasse et pêche des autochtones, les droits autochtones de chasse et pêche. Et puis, je vais aussi parler de découvrir la littérature autochtone. Et de votre côté, Daniel?
Eh bien, moi, je vais vous parler d'un sujet assez, qui m'a frappé, assez bizarre. Amplifier l'amour de la musique en laboratoire.
Oh!
Oh!
Oui.
Intéressant.
Oui, c'est intéressant. Je ne sais pas jusqu'à quel point ça fonctionne. On va voir ça tantôt. Et en deuxième partie, je vais vous parler d'un groupe rock assez connu. ACDC, qui a perdu son cofondateur. Oui. Voilà.
Et de votre côté, Serge?
Oui, dans la presse plus de dimanche, il y avait un article « Montréal, ville ouverte ». Alors, on va parler du côté olé-olé de Montréal dans les années...
Ah, c'est toujours intéressant quand on parle de ça.
Et ensuite, dans la revue d'histoire, dans une revue d'histoire, on va parler du chat. Il n'y a pas toujours eu bonne presse.
Pas le chat d'Iran.
Le chat-chat. Ça s'appelle « Dans les pas du chat noir
». D'accord.
C'est un article pas très long. Après ça, je vais compléter avec deux expressions. « Être dans de beaux draps » et « D'où vient le mot « désastre
». Merci beaucoup. Alors, ben, je vais tout de suite me lancer avec « Découvrir la littérature autochtone, un héritage à la fois ». C'est un article que j'ai découvert sur le, sur le site « Ton petit look » que je ne connaissais pas, mais que j'ai connu, peut-être que vous en avez entendu parler en même temps que moi, son fameux article publié juste avant l'Halloween sur les costumes « Politically correct ».
Pour ne pas faire
d'appropriation culturelle dans ses costumes d'Halloween. Et puis ça a donné lieu à de nombreuses discussions. C'est ce qui m'a fait découvrir ce blog. Alors là, je suis plutôt sur la section littérature, Ton petit look book club. Et c'est un article de Catherine Légaré qui est paru le 6 novembre. Donc, découvrir la littérature autochtone, un héritage à la fois. Cette session-ci, parce que Catherine nous parle de ses études à l'université, cette session-ci, j'ai la chance d'avoir un cours qui s'intitule « Littérature nordique » au pluriel. À la fin de mon baccalauréat en études littéraires, je me permets des champs de connaissances totalement inconnus et un peu plus de lousse niveau performance. Ce qui veut dire que je ne veux plus avoir peur de suivre des cours par crainte de ne pas avoir de bonnes notes, car je ne connais absolument rien au sujet. Vous me suivez? Bref, elle se lance dans des choses un peu plus inconnues. Tout d'abord, laissez-moi vous avouer quelque chose. Mon champ littéral et lexical a été complètement chamboulé par ce cours. Non seulement je me rends compte que la littérature autochtone est fortement sous-estimée, voire inconnue, mais j'ignorais moi-même beaucoup de choses sur leur culture et leur héritage. En ce moment, j'apprends des notions importantes sur la nordicité, la culture du Nord, ainsi que les rapports entre la vie et la mort au sein de la culture autochtone. Au fil des cours, je comprends de plus en plus l'importance que les Autochtones accordent à leur relation avec leur environnement, leur espace et leurs racines. Je ne suis pas une experte et je ne veux aucunement parler au nom de leur peuple. Ce n'est aucunement mon droit et je n'ai pas à exprimer des enjeux que je ne comprends pas à 100% et que je n'ai jamais vécu. Mais je suis extrêmement touchée par l'authenticité et la transparence dont ils font preuve dans leur littérature. Mon premier contact avec la littérature autochtone remonte à la session dernière où j'ai découvert Joséphine Bacon avec son œuvre poétique bilingue, français Inuaimun, donc le titre « Bâton à message » en français et en Inuaimun « Chisinuachitanaka ».
Il y a comme un silence au début.
On vous attendait.
Je prenais mon souffle parce qu'il y a vraiment beaucoup de lettres avec pas d'espace.
Non.
Alors, « Chisinuachitanaka ». Chitanaka. Mm-hmm. Si jamais vous voulez trouver son livre, j'ai fait une recherche avec juste bâton à message et on trouvait ben, Joséphine Bacon, bâton à message. Malheureusement, j'ai vérifié, il n'est pas disponible au SQLA en version audio. Par contre, le prochain livre dont je vais vous parler, lui, il l'est. Alors, c'est un des recueils de poésie les plus touchants que j'ai eu la chance de lire, qui parlait du partage, de l'héritage et de la survie du peuple Innu. Cette fois-ci, j'ai découvert, donc là, il parlait de la session passée, alors cette fois-ci, j'ai découvert et j'ai eu un gros coup de cœur pour Taamusi Kumak. T-A-A-M-U-S-I K-U-M-A-K Taamusi Kumak. Avec son autobiographie, « Je veux que les Inuits soient libres de nouveau ». Et celui-là, j'ai vérifié, il est disponible en version audio enregistrée par Vues et Voix. Alors, où est-ce qu'il est là? Alors, chef du premier conseil du village de Powunituk, au Québec, Taamusi Kumak est un des plus grands modèles de courage canadien, démontrant une fierté irréprochable pour sa nation. Celui-ci s'est toujours battu pour la conservation de sa langue ainsi que de son héritage culturel. J'ai été très émue de lire sur un sujet si sensible et, dois-je l'avouer, totalement inconnu et déconnecté de la, parfois très triste, réalité que l'on nous force à absorber. Cela a remis mes perspectives en place sur l'appropriation que j'ai de ma propre culture, de ma relation avec le territoire environnant, ainsi que de ma façon de vivre en général. Et elle termine avec une citation de « Je veux que les Inuits soient libres de nouveau », l'autobiographie de Taamusi Kumak, qui, elle précise, a vécu de 1914 à 1993. « Je ne suis pas de la même religion qu'eux, les francophones catholiques, mais j'ai toujours respecté les religions des autres, sachant que nous n'avons pas tous les mêmes raisons de vivre. » Alors, suivant?
Oui, je vais me lancer avec un article qui est paru dans la Presse Plus, édition du 21 novembre. Le titre m'a vraiment accroché, donc j'ai dit, il faut vraiment que je m'occupe de ça. « Amplifier l'amour de la musique en laboratoire. Chair de poule, émotion de toutes sortes, envie irrépressible de l'écouter en boucle. » Une bonne pièce musicale peut procurer un plaisir intense.
Ça, c'est vrai.
Oui, hein? Mm-hmm. Puis souvent, quand on aime une chanson, si, par exemple, on arrive à la maison, on est dans l'auto, il faut l'écouter jusqu'à la fin.
Oui.
Sinon, on va nous rester.
C'est là que sinon, elle nous reste en tête.
Moi,
le fameux
verre
d'oreille.
Je reste dans l'auto. Oui. Bon. Bref. Or, des chercheurs montréalais viennent de montrer qu'on peut moduler ce plaisir comme on ajuste le volume d'une chaîne stéréo.
Ben voyons.
Absolument. Le truc, bidouiller les circuits électriques du cerveau avec des champs magnétiques. C'est la grande découverte. C'est un peu inquiétant quand même.
Ben, c'est ça que j'allais dire. C'est pas ça que je voudrais que quelqu'un bidouille dans mon cerveau.
C'est pas ça que ça attire ma curiosité. Donc, c'est la grande découverte de l'étude publiée hier dans Nature Human Behavior. On peut manipuler le cerveau de façon à intensifier ou atténuer le plaisir musical. Pour ça, l'équipe de Robert Zator, professeur de neurologie et de neurochirurgie à l'Institut et Hôpital neurologique de Montréal, rattaché à l'Université McGill, ça fait moins musical déjà, hein, parce que, bon, a utilisé la simulation magnétique transcrânienne, SMT. La technique consiste à stimuler ou inhiber certaines zones du cerveau en leur envoyant un champ magnétique, en stimulant ainsi une zone appelée cortex préfrontal dorsolatéral gauche chez 17 participants. Les chercheurs ont fait augmenter le plaisir qu'ils ressentent en écoutant de la musique. En inhibant la même zone, le plaisir diminuait. On a fait une
triple... J'espère que c'est pas permanent là, si on diminue leur plaisir.
Non, je pense que c'est temporaire. Et d'ailleurs, apparemment, ils ont fait une triple vérification pour s'assurer que c'était pas un hasard. Les scientifiques ont utilisé trois mesures pour évaluer l'extase musicale de leurs participants. D'abord, ils leur ont demandé de noter leur plaisir sur une échelle de 1 à 4, donc 1 étant neutre et 4, ça donne des frissons. Puis, ils ont mesuré l'activité électrique à la surface de la peau, un indicateur des émotions ressenties. Enfin, par un système d'encan, ils ont évalué le prix que les participants étaient prêts à payer pour les pièces musicales écoutées.
Ah.
Les trois mesures vont dans la même direction. C'est important et ça montre que ce n'est pas l'effet du hasard, dit Robert Zator. Fait intéressant, le truc fonctionne autant avec les pièces préférées des participants que celles qui leur étaient imposées par les chercheurs. Ça, c'est encore plus surprenant.
Oui, c'est vrai.
Ça, j'ai l'impression de me faire manipuler. L'expérience vient rappeler que notre cerveau est une machine électrique avec laquelle on peut interagir. Les champs magnétiques appliqués par les chercheurs ont modulé l'activité électrique dans des circuits dits frontostriato. Ça se dit pas facilement, là, mais ça s'écrit F-R-O-N-T-O-S-T-R-I-A-T-A-U-X. Frontostriato.
Okay.
En excitant ces circuits, le cerveau produit plus de dopamine, un neurotransmetteur lié au plaisir. En atténuant, au contraire, l'activité des mêmes circuits, le niveau de dopamine tombe et la musique génère moins d'effets. Jusqu'où d'ailleurs, ça a sûrement un rapport avec ceux qui prennent certaines substances illicites ça, pour augmenter le plaisir.
Oui, ça, doit,
ça agit sur la dopamine.
Ça doit, oui, ça doit stimuler les mêmes zones du
Absolument.
Cerveau.
Absolument, et ça va être légal bientôt. Jusqu'où peut-on pousser ainsi la jouissance provoquée par la musique? C'est une bonne question. Une fois que les neurones dopaminergiques... Je les pratique avant ces mots-là. Les
élus Quand à on voix les lit dans notre tête, c'est toujours pareil comme à haute voix.
Une fois que les neurones dopaminergiques ont exprimé toute leur dopamine, je suppose que l'augmentation du plaisir va arrêter ou qu'il y aura un plafond, dit le professeur Zator. Et si c'est le plaisir musical qui a été étudié, le mécanisme pourrait sans doute moduler aussi le plaisir lié à la nourriture, au sexe, à l'art visuel ou à n'importe quel autre stimulus. Il n'y a aucune raison de penser que c'est spécifique à la musique. Peut-on rêver de casques à stimulation magnétique qui amplifieraient autant nos expériences musicales que nos orgasmes? Robert Zator, sans nier que de telles possibilités puissent un jour apparaître, avoue avoir d'autres priorités. Dommage quand même.
Pourquoi d'autres? Parce que c'est important.
Qu'est-ce qui se passe? Il nous donne le goût, puis après, bon. Sa prochaine mission, étudier si la stimulation magnétique transcrânienne peut aider les patients atteints de la maladie de Parkinson. Ah là, quand même, un but assez noble. C'est qu'en plus de provoquer des problèmes moteurs, la maladie atténue souvent le système de récompense du cerveau. Les patients ressentent alors moins de plaisir à faire ce qu'ils aiment et finissent par souffrir de dépression ou d'apathie. À l'inverse, atténuer le même système de récompense chez les gens chez qui il est surstimulé pourrait peut-être un jour aider à traiter toutes sortes de dépendances. Contrairement au plaisir lié à la nourriture et au sexe, celui qui est déclenché par la musique ne joue pas de rôle évident dans la survie de l'espèce. Ça, ça reste à prouver, mais bon. Les scientifiques, dont Robert Zator, en ont toutefois décortiqué les mécanismes. Ils ont montré qu'une séquence musicale pousse le cerveau à anticiper ce qui suivra. La surprise et la réalisation de nos attentes créent ensuite un jeu qui génère du plaisir. On peut facilement imaginer que le fait de pouvoir prédire est important pour la survie. Donc, c'est un petit peu tordu son raisonnement, mais finalement, la musique est importante pour la survie. C'est ce que je retiens. Il est possible que la musique soit donc un jeu dont le rôle est d'entraîner ces mécanismes de prédiction.
I can see you're thinking, baby, I've been thinking too, about the way we used to be and how to start anew. Maybe I'm a hopeless dreamer, maybe I've got it wrong, but I'm going where the grass is green if you'd like to come along. Back when I was starting out, I always wanted more. But every time I got it, I still felt just like before. Fortune is a fickle friend, I'm tired of chasing fame. And when I look into your eyes, I know you feel the same. All these sin. I won't say it wasn't fun, but now it has to end. Life is moving oh so fast, I think we should take it slow. Rest our heads upon the grass and listen to it grow. Cars are few and far. Days are full of splendor, and at night you can see the stars. Life's been moving oh so fast, I think we should take it slow. Rest our heads upon the grass and listen to it grow.
On vient d'entendre la formation Pink Martini avec leur pièce Splendor in the Grass, une pièce qui, vous l'aurez peut-être reconnu, incorporerait un extrait du concerto pour piano numéro 1 de Tchaïkovski. Est-ce que c'est le genre de pièce qui vous donne la chair de poule?
Moi, oui.
Ben, moi, j'ai vraiment aimé, justement, c'était très bien incorporé, mm-hmm. cette pièce de Tchaïkovski. Ah oui, Pink Martini. Bon, je vais mettre ça dans ma sur ma petite liste là, de choses à écouter. Alors, ben, c'est maintenant à vous, Serge, de nous remplir les oreilles de plaisir.
C'est à moi. Oui. Alors, un article qui est paru dans la presse plus de dimanche, un article de Iris Gagnon-Paradis, Montréal, ville ouverte. Alors, ville des plaisirs, petit Paris d'Amérique, ville de festival. Au cours de son histoire, Montréal a été affublée de sobriquets, illustrant bien son côté festif, animé, illicite même. Wow.
Donc, ça n'a pas commencé avec la Formule 1, ça.
Non. Comment et pourquoi la métropole a-t-elle acquis cette réputation? Petit retour en arrière pour comprendre le présent. Tout commence pour Montréal dans les années 20. Pourquoi dans les années 20?
Mm-hmm. Prohibition.
Exactement. Ah, oui. Alors que la prohibition règne aux États-Unis, l'alcool est contrôlé, mais légal au Québec, ce qui attire à Montréal, ville des plaisirs, des Américains à la recherche de soirées bien arrosées. Montréal était déjà un grand centre urbain à l'époque. Ces circonstances en font un terreau fertile pour donner lieu à une scène nocturne animée, explique Catherine Charlebois, historienne et muséologue au Centre d'histoire de Montréal, où elle a agi à titre de commissaire pour l'exposition « Scandale, vice, crime et moralité à Montréal » présentée l'an dernier. Je ne l'ai pas vue, j'aurais aimé savoir ça. Ça m'est passé. Je l'ai manqué.
Beaucoup publicisé, ça me
manque. Vous non plus, hein, je ne sais pas où ça a été présenté d'ailleurs. Attiré plutôt par le côté plus ouvert et tolérant de la métropole, plusieurs artistes américains migrent vers le nord. Cette convergence fait que Montréal devient rapidement une plaque tournante musicale et la scène culturelle grandit à un rythme exponentiel. Les salles de spectacle et de bal pullulent alors qu'une scène de jazz émerge dans le quartier de la Petite-Bourgogne, surnommée le Harlem du Nord. Dans les années 40 et 50, de grands noms internationaux sont des habitués des scènes montréalaises. On pense à Édith Piaf, Frank Sinatra, Charles Trenet. Il n'y a pas à dire, Montréal est sur la carte. Paris d'Amérique. L'esprit est donc à la fête à Montréal, ville ouverte où tout semble permis et qu'on surnomme « Petit Paris d'Amérique », avec ses cabarets où se produit notamment les Feuilleuses,
Ah, Lily Saint-Cyr.
Lily Saint-Cyr,
ouais.
Je sais
pas pourquoi je retiens ces noms-là.
Ouais, ben oui, ben,
je l'ai même pas connu.
Moi, je passe pas de commentaires, là. Je fais juste constater. On va tous constater.
Non, c'est
une
question
que
de culture personnelle.
Vous répondez rapidement. C'est, non, mais c'est bien de répondre rapidement aux questions. Et fréquenté par les soldats en permission pendant la Seconde Guerre mondiale. Encore aujourd'hui, cet espace de permissivité est l'une des cartes de visite de Montréal, avec ses bars ouverts tard et son quartier gay vibrant. Montréal est vraiment perçue comme une ville festive, ouverte. La caractéristique du nightlife montréalais, c'est aussi son accessibilité. Pas besoin de connaître quelqu'un pour entrer dans un bar, croit Pierre Belle-Rose de Tourisme Montréal. Mais les plaisirs interdits. Mais en coulisses se cache tout un monde illicite, composé de maisons de paris illégales et de bordels contrôlés par la mafia. Montréal est d'ailleurs la dernière grande ville d'Amérique à fermer officiellement son Red Light, rue Sainte-Catherine, en 1942. Ouais. Oui, c'est connu et reconnu. Montréal a construit sa réputation sur ce côté très illicite, affirme Mme Charlebois. En 1950, le journaliste Al Palmer publie d'ailleurs son livre « Montreal Confidential », qui donne aux visiteurs les clés de la ville interdite pour découvrir ses cabarets les plus glamour, ses maisons de jeux et bars clandestins et ses personnages les plus colorés et sulfureux. Esprit festif. Dès le 19e siècle, Montréal a l'esprit à la fête et à la célébration. Exposition agricole, carnaval d'hiver, sans oublier le parc Belmont et le parc Summer aussi, avant le parc Belmont, qui marque l'imaginaire avec ses fêtes foraines, spectacles et manèges. En 1967, c'est l'ouverture de la ronde, qui coïncide avec celle de l'exposition universelle. C'était assez capoté, la ronde pendant l'Expo 67. Quand les pavillons ferment le soir, tout le monde s'y dirige. C'est la fête de nuit, les montagnes russes, les jeux forains, on s'éclate, rappelle Mme Charlebois. Expo 67 fait non seulement entrer Montréal dans la modernité, mais donne un élan à toute une génération. Expo 67, c'est fondamental. Beaucoup de jeunes vont s'y professionnaliser. Ça vient ouvrir les possibilités et donner le goût d'organiser de grands événements, note l'historienne. Dans les années qui suivront, d'immenses festivals seront organisés à Terre des Hommes et ailleurs en ville, sur le Mont-Royal notamment. On parle carrément d'un écosystème festivalier. Les années 80 marquent la naissance d'une réelle culture des festivals à Montréal. Le Festival international de jazz de Montréal lance le bal à l'été 1980, suivi des Francofolies en 1989. Ce qui est différent à Montréal, c'est que ce sont de jeunes promoteurs privés qui ont créé des OSBL, contrairement à d'autres villes où les événements sont organisés par les municipalités. Ça nous démarque. Ouais. Ouais, c'est bien d'ailleurs. Cela a donné naissance à un écosystème festivalier très diversifié, avec un programme d'aide aux événements, détaille M. Belle-Rose. Autre trait unique à Montréal, l'accessibilité des festivals qui offrent des concerts gratuits et en plein air. Il semble que ce ne soit pas partout. Ville gourmande. Montréal est une ville gourmande.
Oui.
Évidemment, les touristes ont toujours mangé, lance M. Belle-Rose. C'est sûr. C'est... Mais depuis une dizaine d'années, le Montréal gastronomique en attire de plus en plus, au point d'en faire un trait distinctif de la ville. Endroit emblématique connu comme le... sur Saint-Laurent, où on mange de la viande fumée. C'est connu.
Benz, mais...
Schwartz, oui.
Je voyais la moutarde, là.
Alors, le Schwartz. Cuisine de chefs réputés comme David McMillan ou Normand Laprise, foisonne d'événements gourmands, qu'on pense à Montréal à table ou le Yuleat, Yuleat.
Ah, ça me
dit. Ouais, non. Sans compter la diversité montréalaise qui s'exprime dans les brasseries japonaises et autres taqueiras mexicaines, cette scène en pleine ébullition contribue à l'expérience festive montréalaise. Petite question. Combien pensez-vous qu'il y a d'établissements de restauration commerciale à Montréal? Bon, qu'il y avait établissement à Montréal en 2016.
Trop?
Oui, trop peut-être.
Vraiment
mais,
beaucoup, en tout cas, ça c'est certain.
Risqueriez-vous un chiffre?
Non, je ne risquerais pas un chiffre non. Parce que si tu me demandais juste combien il y a de McDo ou de Tim Hortons, ça doit être déjà très impressionnant.
Donc, imaginez-vous, total de tout ça. On parle de, en 2016, 5635. Incroyable, hein?
C'est quand même beaucoup.
Ouais, ouais. Et en 2000, on a fait une étude en les dépenses des touristes en restauration à Montréal en 2014. Risqueriez-vous un chiffre, des gros sous, Isabelle? Combien d'argent en 2014 aurait été dépensé dans les restaurants par les touristes?
Mais par les en tout, là,
en
pas
tout.
Par...
Dépenses des touristes, on me dit ici, dépenses des touristes en restauration.
Ça doit être des millions de dollars, là. Il y a ouais. Jean-Sébastien qui me fait des signes.
Ben, parce que lui, Jean-Sébastien, derrière mon dos, il voit le montant, lui, là. Ah,
mais moi, ma question, c'est comment on fait pour savoir que c'est juste des touristes qui en mangent?
Ouais, je sais pas, mais
est-ce que je suis un touriste?
Non, ben, on parle de 731 millions de dollars.
Oh, oui, c'est
beaucoup. C'est énorme. Ajoute à ça la consommation par les Montréalais, parce qu'il semblerait que ce soit seulement les touristes. On doit atteindre un méchant montant là, dans les milliards de,
ouais,
de dollars.
Ouais. Mais c'est si on, probablement que si on comptait les pertes des restaurateurs qui ne réussissent pas et qui finissent par fermer, ça serait aussi dans les millions de dollars.
Oui, c'est ça. Moi, le chiffre ne veut pas dire nécessairement que c'est rentable pour les restaurateurs.
Non, c'est ça.
Petite anecdote sur ça. Quand j'ai fait mon secondaire en 69, notre prof de géographie nous avait dit qu'à ce moment-là, en 1969, avec les restes de table de l'Amérique du Nord, Canada, États-Unis, on nourrissait toute l'Europe. Et avec les restants de ces restants-là, le reste de l'humanité.
Oh mon Dieu!
En 1969, imaginez aujourd'hui. Puis on ne jetait pas beaucoup en 69.
Il y a encore des gens qui meurent de faim en 2017.
Ouais. Mais imaginez tout ce qu'on jette aujourd'hui. On jette terrible. Aujourd'hui, c'est incroyable. Ouais. Alors voilà.
Mais merci Serge. On va se faire plaisir et écouter cette petite musique de Montréal, ville ouverte. Et on se retrouve après la pause.
every tune.
Une fois n'est pas coutume, AC/DC avec la pièce Dirty Deeds Done Dirt Cheap, extrait de l'album du même nom, paru il y a 41 ans déjà.
Et quand même, hein?
Et oui, on a cherché, Daniel et moi, une pièce un peu plus reposante, mais AC/DC font partie de ces groupes qui n'ont pas encore fait de ballades ou d'albums acoustiques.
Si on cherchait la version unplugged, il n'y en a pas. Mais merci, Jean-Sébastien, d'avoir prononcé le titre parce que j'ai de la misère avec. Ça se dit pas très bien. Alors, voilà un article qui est paru dans Le Devoir le 18 novembre. Le groupe de hard rock AC/DC perd son cofondateur Malcolm Young. Le légendaire groupe de hard rock AC/DC a perdu samedi un de ses membres fondateurs, le guitariste Malcolm Young, laissant orphelin des millions de fans et une formation plusieurs fois décimée par le départ de ses membres. Souffrant de démence depuis des années, on croirait pas ça à entendre le groupe quand même. Hein? Malcolm Young, 64 ans, avait dû prendre sa retraite en 2014 avant la sortie de l'album Rock or Bust. Sa disparition a entraîné de nombreux hommages dans le monde de la musique via Twitter. Merci d'avoir fait partie intégrante de la bande son de ma vie. Ta musique est la définition de l'intemporel, a indiqué Lars Ulrich, le batteur de Metallica, tandis que la légende du heavy metal, Ozzy Osbourne, qui a annoncé récemment qu'il arrêterait de faire des tournées, s'est dit très triste de cette disparition. Il va terriblement nous manquer, a-t-il écrit. Guitariste et chanteur du groupe Kiss, Paul Stanley a salué le moteur des AC/DC. Une fin tragique pour une icône parfois méconnue, l'un des vrais grands, indique-t-il. Moins médiatique que son frère Angus, connu pour ses apparitions sur scène déguisées en écolier, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, Angus Young, non. Il est toujours en culotte courte, en petite casquette. Et puis, ouais, ça enlève un peu le côté hard rock.
Mais j'avoue que
ça ramène ça un petit peu à un autre niveau. Donc, Malcolm Young était la force motrice des AC/DC, a affirmé son cadet, annonçant sa disparition sur le compte Facebook du groupe. En tant que guitariste, compositeur et visionnaire, c'était un perfectionniste et un être unique. Sa loyauté envers les fans était inégalée, a-t-il écrit. En tant que frère, il m'est difficile d'exprimer par des mots ce qu'il a signifié pour moi durant ma vie. Le lien que nous avions était unique, poursuit-il. Il laisse derrière lui un immense héritage qui vivra toujours. Malcolm Young s'est éteint entouré des siens quelques semaines après le décès d'un autre frère Young, George, également musicien au sein des Easy Beats et considéré comme le mentor des AC/DC. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, je vous en avais parlé.
Oui, c'est vrai.
J'avais fait jouer une pièce qui avait été très in dans les années 60, qui avait écrite. Et d'ailleurs, George, l'autre frère là, qui est décédé récemment, c'est lui qui avait écrit aussi le succès disco Love is in the Air.
Ah oui!
Complètement à côté de ce qu'on attend de lui, mais quand même. Ouais. Donc, la famille Young, ils ont goûté dernièrement. C'est pas drôle. Né le 6 janvier 1953 à Glasgow, il était le sixième enfant d'une famille écossaise immigrée à Sydney, qui en compte 9. Pas Sydney qui en compte 9, là, mais la famille en compte. Après une adolescence bercée au son de Jerry Lee Lewis, Little Richard et Chuck Berry, il décide à 20 ans de former un groupe et enrôle son frère Angus, alors âgé de 14 ans, mais déjà doté d'une personnalité explosive et d'une maîtrise des riffs de guitare. Ils choisissent de s'appeler AC/DC, comme le courant alternatif courant continu. On voit souvent ce sigle-là. Mm-hmm. Mais aussi en argot, à voile et à vapeur. Je ne sais pas en anglais si c'est vraiment comme ça. Là.
Ah.
Traduit par un français.
Et à voile et à vapeur, ça veut dire qu'il est aux hommes et aux femmes en même temps.
Queer,
là,
qu'on pourrait traduire, je sais pas.
Parce que c'est une expression très franchouillarde.
Oui, effectivement, je pense pas que
vraiment ça au Québec.
Ça. C'est pour ça que je... c'est entre parenthèses. Et donnent leur premier concert fin 1973. La scène va devenir leur terrain de jeu et les tournées marathon leur quotidien. On ne se prend pas trop au sérieux, bien qu'on soit un grand groupe scénique. Notre succès est davantage lié à nos concerts qu'à nos disques, estimait Malcolm Young au quotidien Le Monde en 2000. Depuis leur début, le groupe a vendu plus de 200 millions d'albums quand même. et composé des classiques entonnés dans les stades du monde entier comme Highway to Hell, Let There Be Rock ou Back in Black. Et l'autre qu'on a entendu.
L'autre dont vous ne voulez pas nous rappeler
le titre. Dirty Deeds Done Dirt Cheap. Si on le dit en mots séparés, c'est pas si mal. Habitués à des shows hauts en couleurs et en décibels, leurs fans ne se sont jamais lassés des solos d'Angus Young, de la voix suraiguë du chanteur Brian Johnson au micro depuis 1980, de la batterie grondante comme un orage australien et même des coups de canon lors des rappels. Pourtant, AC/DC a dû se relever plusieurs fois. En 1980, après le décès de son premier chanteur, Bon Scott, mort étouffé par son propre vomi, bon appétit, après une nuit de beuverie, ou plus récemment après l'éviction du batteur historique Phil Rudd, condamné en Nouvelle-Zélande pour menace de mort et possession de stupéfiants. Des gentils garçons.
On n'essaie pas ça à la maison.
Non, sauf sous la surveillance de professionnels. L'an dernier, c'est le départ forcé de Brian Johnson, obligé de quitter la scène pour ne pas devenir sourd, qui avait failli compromettre l'avenir du groupe de légende. Le chanteur de Guns N' Roses, Axl Rose, l'avait remplacé au pied levé pour poursuivre la tournée.
Et, comme je dis très souvent à cette antenne, dans un tout autre ordre d'idées, je vais vous parler des droits autochtones de chasse et pêche. 5 choses à savoir sur les droits autochtones de chasse et pêche. C'est un article qui est paru le 22 octobre sur Ici Toronto, donc le site de Radio-Canada de Toronto, dans la section Société autochtone. Alors, les droits autochtones de chasse et pêche sont fréquemment au cœur de l'actualité. Voici... Excusez-moi, j'ai accroché un bouton.
je suis pas tout seul à qui ça arrive. Je suis tellement content dans ce temps-là.
Parce que je télécharge les versions hors ligne, mais il y a quand même les hyperliens qui sont conservés. Alors, les droits autochtones de chasse et pêche sont fréquemment au cœur de l'actualité. Voici 5 choses à savoir sur ces droits qui sont souvent mentionnés, mais rarement expliqués. Premièrement, il n'existe pas de frontières clairement définies pour les droits de chasse et pêche. Ces droits découlent de traités conclus entre les peuples autochtones et le gouvernement du Canada. Ils ont été reconnus dans la Constitution canadienne en 1982. Dans le nord-est de l'Ontario, les 3 principales ententes sont les traités Robinson-Huron ou Robinson-Huron, mais on va le dire en français, ça va être plus facile, et Robinson-Supérieur, conclu en 1850, et le traité numéro 9, il y avait moins d'inspiration cette année-là, signé en 1905. Les peuples autochtones peuvent chasser et pêcher sur les territoires précisés dans les traités, mais les frontières ne sont pas clairement définies, selon l'avocat spécialisé en droit autochtone Martin Bayer. Il n'y a pas vraiment de ligne physique ou géographique, quelque part dans la forêt, au-delà de laquelle vous n'êtes plus sur le territoire Robinson-Huron. Bien que plusieurs membres de Première Nation apportent leur carte de statut d'Indien lorsqu'ils vont pêcher ou chasser, cela ne prouve pas qu'ils possèdent ce droit, selon Fred Bellefeuille, qui représente la nation Anishinaabe. Il n'existe pas de document officiel pour démontrer que vous possédez un droit issu d'un traité. Habituellement, en montrant sa carte de statut d'Indien, un agent de conservation ne va pas interférer avec le droit de pêcher, mais c'est à sa discrétion. Par ailleurs, le membre d'une communauté autochtone peut parfois pêcher ou chasser sur le territoire d'une autre Première Nation, à condition d'y avoir été autorisé par celle-ci. Deuxièmement, les traditions peuvent aussi créer des droits de chasse et pêche, pas juste les traités. Les membres de certaines Premières Nations peuvent aussi chasser et pêcher en vertu de droits ancestraux détenus par leur communauté. Ces droits découlent de l'utilisation historique d'un territoire et non d'un traité. Pour détenir un droit ancestral de chasse ou pêche, il faut prouver l'existence d'une coutume ou tradition liée à ce territoire et son appartenance à la communauté à l'origine de celle-ci, de cette coutume ou tradition. Les droits ancestraux sont encore plus difficiles à définir géographiquement que les droits issus de traités, comme on peut s'y attendre. Ce n'est pas toujours noir ou blanc, nous ne savons pas. Il n'existe pas de carte de région traditionnelle, explique David Critchlow, qui travaille pour le ministère des Richesses naturelles et des forêts, où il évalue les demandes de droits de chasse. C'est selon les meilleures informations que nous avons. Nous parlons à des communautés pour leur demander ce qu'elles pensent être leur territoire traditionnel et nous prenons des décisions à partir de ça. Il explique que certaines demandes découlent de constats d'infraction remis par des agents à des membres de Première Nation qui réclament un droit ancestral sur ce territoire. Bref, on commence par donner la contravention et ensuite, c'est les tribunaux qui vont déterminer qui avait raison et ça va créer un précédent. La province t'arrête entre 60 et 80 demandes de la sorte par année. Troisièmement, la chasse nocturne est permise pour certaines communautés. Hein, vous savez que la chasse nocturne, c'est pas quelque chose qui est permis. De façon générale, pendant la saison de chasse, on a le droit de chasser le jour, mais pas la nuit. L'arrêt de la Cour suprême R contre Maurice, ou si vous préférez, Sa Majesté la Reine contre Maurice, rendu en 2006, confirme le droit de chasser la nuit pour les communautés qui peuvent démontrer qu'il s'agit d'une pratique traditionnelle. Encore une fois, on doit démontrer la tradition. David Critchlow ajoute qu'il faut chasser de manière sécuritaire.
La nuit, ben oui.
N'est-ce pas? Faut-il le préciser? Et donc, habituellement, dans les régions isolées. Il dit se souvenir d'un cas où un constat d'infraction a été remis à un homme qui avait le droit de chasser la nuit, mais qui n'avait pas respecté cette règle. On espère qu'il n'y avait personne qui avait été blessé dans l'histoire. Mm-hmm. Au contraire du Manitoba, où la chasse nocturne fait l'objet de débats, cette pratique fait plus rarement les manchettes en Ontario. On parle beaucoup de l'Ontario, puisque je vous rappelle, c'est un article que j'ai tiré sur le site de Radio-Canada Ontario. Le ministère des ressources... Voyons, j'ai de la misère avec... ressources, mais finalement, c'est richesse. Alors, le ministère des richesses naturelles examine environ 50 cas de chasse nocturne par année, qui n'impliquent pas toujours des Autochtones, précise David Critchlow. Quatrièmement, les droits autochtones sont enracinés dans la Constitution et clarifiés par les tribunaux. Lorsqu'un individu se voit remettre un constat d'infraction qui concerne la chasse ou la pêche, il peut le contester en invoquant ses droits devant les tribunaux. Ces décisions créent des précédents qui, au fil du temps, précisent les règles applicables, comme on le disait tout à l'heure. Les tribunaux ont dit que les droits ne sont pas figés dans le temps, rappelle l'avocat en droit autochtone Martin Bayer. Il donne en exemple la tradition de construire des abris temporaires lors de la chasse, qui n'auraient pas été respectés par des agents de conservation. Selon l'avocat, il est difficile de résoudre ce type de conflit auprès de représentants gouvernementaux régionaux. C'est plutôt aux peuples autochtones de décider s'ils veulent prendre du temps et de l'argent pour amener l'affaire devant les tribunaux. Ce que je comprends jusqu'à maintenant, là, c'est que c'est surtout des avocats qui se font de l'argent dans cette affaire-là.
Effectivement.
Souvent le cas.
Il semble que ce soit seulement lorsqu'on arrive à ce point que de vraies négociations et discussions puissent avoir lieu afin de parvenir à une solution mutuellement acceptable. Et, cinquièmement et dernièrement, le gouvernement peut interdire aux membres de Première Nation de chasser et de pêcher. L'arrêt phare sur cette question est R contre Sparrow, rendu par la Cour suprême en 1990. Cette décision prévoit que le gouvernement peut imposer des limites aux droits autochtones de chasse et pêche lorsqu'il est justifié de le faire, notamment pour protéger une espèce. Le gouvernement doit toutefois s'assurer que ces mesures de conservation enfreignent le moins possible les droits autochtones et respectent la priorité donnée aux peuples autochtones pour la pêche à des fins de subsistance. On ne pourrait pas permettre à la population générale de pêcher tel oiseau c'est les poissons volants que je voulais dire. Voilà. Alors, de pêcher tel poisson parce qu'il est en voie de disparition. On ne pourrait pas le prémettre à la population générale et l'interdire aux peuples autochtones, n'est-ce pas? Alors, on doit respecter cette priorité. De telles limites sont rarement imposées, affirme Mark Rickman, biologiste pour la Fédération des pêcheurs et chasseurs de l'Ontario. Je crois que ça devrait être utilisé plus fréquemment. Selon lui, le gouvernement hésite à adopter des mesures de conservation en raison du manque de clarté des règles à ce propos et du coût des procédures judiciaires. Et cet article a été rédigé avec les renseignements d'Eric White de CBC. Ah, c'est à vous, Serge.
Oui. Alors, un article de François Surcouf dans la revue Secrets d'Histoire du mois d'août 2017 qui s'intitule « Dans les pas du chat noir ». Des yeux d'or dans un morceau de velours noir. C'est ainsi que Barbé d'Orvilly, auteur des Diaboliques au 19e siècle, décrit sa chatte Desdémone, dite Démonette. Gentil comme... Winston Churchill, lui, ne jure que par Nelson, un autre félin couleur de nuit, qui se vautre sur les documents secrets jonchant le bureau du vieux lion. Mais s'il a ses adeptes, le chat noir a aussi ses détracteurs et traîne souvent derrière lui une sinistre réputation. Vénéré à l'époque pharaonique pour sa sagesse et sa fécondité, le chat, et particulièrement le chat noir, est subitement ostracisé au Moyen Âge.
Ah.
Ouais. Chose d'autant plus curieuse qu'il a rendu évidemment d'énormes services au cours de la Grande Peste.
Ben oui, c'est ça, en éliminant les rats.
Ouais, ouais. Mais en 1233, le pape Grégoire IX, créateur de l'Inquisition, édicte la première bulle de l'histoire contre les sorcières. Celle-ci considère le chat comme l'incarnation du diable et menace toute personne qui en possède un de passer sur le bûcher. Alors, on riait pas, hein?
Alors, la bulle spécifiait vraiment les chats comme un signe que c'était une sorcière sur le passé.
Ses yeux ne reflètent-ils pas? On parle des chats.
Passé au bûcher, excusez-moi.
Beaucoup de gens seraient passés au bûcher. Beaucoup de gens d'aujourd'hui seraient passés au bûcher. Mm. Ses yeux ne reflètent-ils pas les flammes de l'enfer? On affirme... On affirme que le malin et ses complices revêtent son apparence pour aller au sabbat et que sous cette forme, les striges vont étouffer les enfants dans leur berceau. Et là-là... Au Moyen Âge, il représente le malin. Pour conjurer le mauvais sort, les bâtisseurs prennent l'habitude d'emmurer vivant un chat noir dans les fondations des forteresses. Ainsi, dans le château de Combourg, ou Châteaubriand, c'est en France, où Châteaubriand, enfant, était terrorisé par les fantômes, on découvre, lors de la restauration de ce château en 1876, le cadavre desséché d'un chat, emmuré dans une poutre maîtresse de la tour dans laquelle l'écrivain Chateaubriand avait sa chambre.
Ah, c'est ça, c'est le chat qui le hantait.
Ouais. Dans le même ordre d'idées, on enferme aussi les malheureuses bêtes dans les piles des ponts. Ah. En Angleterre, on le nomme Grimalkin et on le pend aux fourches patibulaires et aux gibets, tandis qu'en France, on le brûle vif le soir de la Saint-Jean.
Ouf, coco!
Ben oui. Ces horreurs dont les inquisiteurs retracent le menu dans leur manuel Le Malleus Maleficarum, ou Marteau des sorcières, vont se perpétuer jusqu'au début de la Renaissance. Enfin, dans le folklore breton, le fameux chat d'argent, toujours de couleur noire, cependant, fait la fortune de son propriétaire, mais à condition que le propriétaire ait vendu son âme au diable.
Ah, bien sûr!
Mais, autre superstition, il porterait bonheur.
Ah.
On se rattrape. Mais d'autres peuples ont de l'animal une vision très positive du chat noir. Au Pérou, par exemple, ils sont nourris, choyés et caressés. Ils apportent à leur maître richesse et nourriture et peuvent même découvrir les trésors cachés.
Ah.
En Laponie, ils sont considérés comme les génies familiers de la famille. En Wallonie, on affirme que la possession d'un chaton de cette couleur est un bon présage et que l'on s'attire les disgrâces si on a le malheur de donner celui qui est né dans la maison. Mmh. En France, du côté de la Gironde ou dans le Midi, le chat noir apporte la chance à sa famille d'accueil. En Béarn, il préserve du mauvais œil. Quant au chat botté du comte de Charles Perrault, il est un des exemples les plus fragants de cette catégorie un peu spéciale et félidée. Facétieux, ce chat doué de parole fait la fortune de son maître grâce à des ruses. Enfin, voir un chat noir le jour de son mariage porterait bonheur aux époux. quelques célébrités qui aiment les chats. Rejeté ou adulé, le chat noir reste un animal controversé, encore souvent victime de préjugés. Pourtant, de nombreux sont leurs inconditionnels, arguant que le petit félin sombre serait le plus doux et le plus affectueux des représentants de toute son espèce. Parmi ses amateurs, Churchill, Barbey d'Orville, qu'on a nommé plus tôt, Hemingway, Brassens, ou Richelieu, le fameux cardinal de Richelieu, dont le matou préféré s'appelait, essayez de deviner un peu, cardinal de Richelieu.
Je l'ai lu dans un livre. Comment il s'appelait son chat?
Pensez aux enfers.
Pas
Lucifer.
Lucifer. Le président de Richelieu avait appelé son chat Lucifer. Et savez-vous qu'à Paris, il y a un fameux cabaret, le Chat Noir, au 19e siècle, donc on a un petit article ici. Le cabaret du Chat Noir est, au début du 20e siècle, le haut lieu des distractions et des fredaines. Créé par Rodolphe Salis en 1881, il devient le quartier général des artistes. Il doit son nom à un chat noir perdu sur le trottoir que Salis a trouvé pendant les travaux et qui est devenu la mascotte de cet endroit. Son nom fait également référence au chat noir d'Edgar Allan Poe. La réussite du cabaret est telle qu'en juin 1885, Salis doit le transférer dans un bâtiment plus grand. Faut-il, dans le joyeux désordre qui y règne chaque soir, y voir la passion des anarchistes pour le félidé, symbole de liberté et d'outrance? C'est une petite question auquel un jour on répondra peut-être. Et le chat noir, pour celui-là, a porté bonheur.
Encore une fois.
Oui. Alors, maintenant, être dans de beaux draps.
Oui.
Connaissez-vous, on connaît le sens pas mal de ça, être dans de beaux draps.
Mais ça veut dire être pas dans une très bonne situation.
Non, c'est ça,
hein?
Ah, les origines. À la Renaissance, l'expression exacte était « être dans de beaux draps blancs ».
OK. Dans un hôpital, quoi?
Non. Il n'y avait pas beaucoup d'hôpitaux,
oui,
ce moment-là.
C'est pour ça qu'il était très blanc.
Non. Alors, le blanc porte l'étendard de vertu virginale, symbolise l'innocence, la pureté de l'âme.
Donc, alors, c'est bon?
C'est bon, oui. Mais l'historien du langage, Claude Duneton, nous dit qu'à l'origine de ces draps blancs se trouve une ancienne forme de pénitence, une amende honorable pour le péché de la chair.
Ah!
Ah! Aussi, le repentant devait assister à la messe revêtu d'un drap blanc. Donc, tout le monde savait qu'il avait péché, hein? C'était gentil.
Oui.
Alors, au tournant des 17e et 18e siècles, l'expression mute. Mettre une personne en beau drap blanc revient à la railler, la critiquer. Puis ces beaux draps ont fini par désigner une situation difficile dans laquelle on se débat. « Ah! Dit-on, j'aurais mieux fait de dire la vérité. Me voilà dans de beaux draps. »
Ah, oui.
Attends, on a encore le temps pour le mot « désastre ».
Désastre.
Un désastre, oui. Son origine nous emmène du côté de la Grèce et de la Rome antique. Le préfixe péjoratif « dis », désastre, dis, mm-hmm. placé devant le mot « astère », pour astre, qui veut dire étoile. Isabelle m'écoute avec des grands yeux.
Mais je dis, ça m'intéresse comment on arrive des étoiles aux désastres. Oui.
Cela aboutit au sens de mauvaise étoile.
Ah, ben oui, désastre. Oui, OK, je comprends.
Alors, les Grecs anciens croyaient en l'influence des corps célestes sur la vie terrestre. Un désastre était une calamité imputable à un alignement néfaste des planètes. De nos jours, un désastre est aussi bien d'origine humaine que naturelle. Et voilà.
Ah, eh bien. J'en ai une. Oui, alors j'en ai une, comme je disais. Voici comment ce vin que vous ne buvez pas finit dans le réservoir de votre voiture.
C'est très rare, ça, par exemple. Le vin qu'on ne boit pas.
Oui, il se passe quelque chose entre les deux étapes, quand même.
J'espère,
Les amateurs de vin californien connaissent bien les régions de Napa et de Sonoma, mais Rancho Cucamonga, probablement pas. Ce quartier à l'est de Los Angeles accueille pourtant les vins de nombreux vignobles américains, ainsi que les whiskies de certaines distilleries et autres bières artisanales. Mais pas pour le plaisir d'éventuels amateurs de dégustation. L'entreprise Parallel Products récupère les vins spiritueux invendus, les transforme en éthanol, un produit qui est ensuite notamment incorporé à de l'essence qui peut être vendu par les pétrolières partout sur le continent. Il y a d'ailleurs une raison pour laquelle ce quartier demeure inconnu des consommateurs. Certains des vins que nous détruisons proviennent de vignobles qui nous interdisent de mentionner le nom. Évidemment, qui voudrait découvrir que son pinot préféré est si peu populaire qu'il est essentiellement consommé par des voitures? Alors, c'est ce qui met fin à cette émission des Voix de service magazine. Et les Voix de service tout court suivent à l'instant. Je remercie Daniel Lachance, Serge Bradet, moi-même Isabelle Falardeau. Je ne me remercie pas, mais je vous dis au revoir. Et merci beaucoup à Jean-Sébastien, La Liberté à la mise en onde et aux choix musicaux en collaboration avec Daniel. À la semaine prochaine, tout le monde!
Bonjour. Bye!